France Culture.
J'ai vécu suffisamment longtemps dans l'un de ces nouveaux quartiers parisiens dans lesquels, sur d'anciennes voies de chemin de fer et autres entrepôts frigorifiques, sont sortis de terre des dizaines d'immeubles au tournant des 20e et 21e siècles, pour avoir peu à peu vu certains de ces immeubles encore très jeunes faire l'objet de remembrements radicaux, à l'inverse des vieux bâtiments dont on ne conserve que la façade. Ceux-là sont méticuleusement dépecés de toutes les vitres. Mais pourquoi, me suis-je demandé toutes ces années, qui paye ? Existe-t-il des incitations fiscales à de la sorte tout casser dans ces immeubles quasi neufs ? J'ai enfin trouvé la réponse en lisant un livre passionnant de sociologie. Son autrice Marine Duros est cette semaine l'invitée de La Suite dans les Idées.
France Culture, La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmont.
Et c'est une architecte qui a réfléchi aussi aux bâtiments, à la ville, aux opérations économiques liées à l'immobilier, notamment au Forum des Halles. C'est Françoise Fromono qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Puis on continuera en partie sur la finance, mais pas que. Dans la dernière partie de l'émission, la rubrique actualité sera consacrée au lancement d'un nouveau média, un site qui s'appelle Diagramme, à l'initiative du philosophe Michel Ferrer, qui nous rejoindra donc en toute fin d'émission. Bonjour Marine Duros. Vous publiez « Immobilier hors sol, comment la finance s'empare de nos villes », un livre qui paraît dans la collection Microcosme des éditions Raison d'agir. C'est un livre issu de votre thèse, car vous êtes docteur en sociologie de l'École des études en sciences sociales. Vous enseignez, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, par ailleurs. C'est un livre d'ailleurs de sociologie, mais avec quelqu'un qui a un bagage en économie politique assez solide aussi, pour s'attaquer à des sujets ardus comme ceux de la finance. J'ai choisi d'ouvrir l'émission par cette question personnelle que sincèrement je me pose depuis des années. Et votre livre permet d'y répondre, comme il permet de répondre au fond en avançant la rationalité des acteurs économiques, là où on pense que c'est de la gabegie, que c'est de l'irrationalité totale, que c'est incompréhensible, qu'on ne voit pas pourquoi les choses se font comme ça. Notamment le fait que à Paris, comme dans beaucoup d'autres villes, grandes villes, il y a des mètres carrés et des mètres carrés vides de bureaux, et pour autant, on continue de construire des immeubles de bureaux. Comment on peut comprendre ce fait étrange ?
Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, en effet, on a aujourd'hui 6 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Hein, c'est un chiffre record, et de nouveaux bureaux flambant neufs sortent de terre. On a par exemple l'exemple de la tour Triangle, Porte de Versailles, ou encore l'Arboretum de 120 000 mètres carrés de bureaux à Nanterre qui sont
tout
sortis
en bois.
De terre, tout en bois. et en effet, c'est vrai que cette question a été publicisée récemment, hein, avec la crise du Covid. On a eu tendance à l'associer à l'avènement du télétravail qui aurait produit tous ces bureaux vides. Or, en fait, ce que je montre dans ce livre, c'est que cette dynamique, elle est bien en place depuis de nombreuses années. Et donc, elle n'a pas attendu le Covid. Bon, je vais reparler de cette fameuse financiarisation de l'immobilier. Mais en effet, pour donner quand même quelques chiffres, pour montrer qu'on a une dynamique de surproduction de bureaux, c'est que ces 20 dernières années, on observe en fait que la taille du parc de bureaux, il augmente bien plus vite que la production d'emplois. Dans les années 2000, pour vous donner un chiffre, on avait 23 mètres carrés de bureaux par nouvel emploi créé. C'est 44 mètres carrés de bureaux créés par nouvel emploi créé.
Ça fait des grands bureaux. Hein.
Voilà, le double, alors que sur la même période, paradoxalement, la production de logements neufs mène à... Globalement, ces surfaces sont plus petites, de l'ordre, elles se sont réduites de 10 mètres carrés sur la période.
De grands bureaux et de petits appartements.
Exactement,
en moyenne.
Voilà.
Et surtout donc des bureaux vides.
Des bureaux vides. Et donc ces bureaux vides, en effet, donc j'en parle justement, j'explique ce phénomène par ce que j'appelle la financiarisation de l'immobilier, hein, c'est-à-dire ce phénomène par lequel de nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les sociétés de gestion d'actifs, plus connues sous le nom de fonds d'investissement immobilier, placent dans l'immobilier qu'ils considèrent comme un actif financier comme un autre.
On va commencer par là, parce qu'on pourrait croire, on nous parle tout le temps du marché immobilier, les news magazines font leur une sur les prix de l'immobilier, donc on a des représentations dans la tête qui sont celles d'un marché où on voit les prix qui augmentent en fonction de la demande, etc. En fait, s'agissant en particulier de l'immobilier de bureau, mais pas que, on s'aperçoit que ça marche pas comme ça. Bon, ça marche jamais, de toute façon, l'économie, selon les lois du marché telles que définies par la théorie économique, on le sait bien, et heureusement qu'il y a des sociologues pour mener des enquêtes. Mais vous le documentez particulièrement, ça marche pas du tout comme ça, parce qu'il y a des gens, et c'est ça que vous documentez dans votre livre, qui à partir d'un certain moment, on peut dire quand, début des années 90 ?
Voilà, début des années 90, en tout cas, il y a une accélération de ce phénomène avec l'arrivée de ces fameuses sociétés gestion d'actifs.
Voilà, alors ces gens-là se sont mis à considérer que les mètres carrés de bureaux ou de logements, mais surtout de bureaux, n'étaient pas seulement des mètres carrés, qu'en fait ça pouvait servir de support, de produit économique sur lesquels la finance pouvait s'arrimer en quelque sorte.
Complètement, oui, c'est ça. En fait, ces sociétés de gestion d'actifs, elles ont pour mission de collecter, donc elles collectent l'épargne, enfin l'épargne d'investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, mais également de riches particuliers, dont donc l'objectif est de faire fructifier le capital de ses clients contre une commission. Et en effet, ce secteur, c'est donc évidemment il existait avant, déjà au 19e siècle,
oui,
déjà les compagnies d'assurance.
Voilà. Il y a encore des immeubles, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a des immeubles parisiens qui appartenaient aux grandes compagnies d'assurance.
Exactement.
Qui faisaient ça pour avoir des réserves en quelque sorte.
Exactement. En fait, sauf que ces compagnies d'assurance considéraient l'immobilier comme un bien patrimonial, et ce qui les intéressait en effet, c'était juste ces revenus locatifs, mais la durée de détention était une durée de détention de long terme. Alors qu'avec ces sociétés de gestion d'actifs, là on a une logique de beaucoup plus court-termiste,
mais
où on recherche
des
plus-values à
3 ans, 5 ans.
Ça dépend des compagnies, ça dépend des types de d'acteurs, les foncières, les fonds, je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails, mais ça peut être 3, 5 ans, comme 10, 15 ans, mais en tout cas, on va chercher à valoriser, à calculer la plus-value en fait, potentielle de ces immeubles. Et donc, ce sont des arbitrages qui sont faits par ces acteurs entre garder un immeuble de bureau, le revendre, le restructurer, voilà. Et même vite, justement, c'est ce que j'essaie de montrer justement dans cette enquête sur les pratiques mises en place par ces acteurs.
Alors, évidemment, on imagine que tout ça, quand ça naît au début des années 90, participe d'un mouvement beaucoup plus général de financiarisation de l'économie. Et l'immobilier n'est qu'un des secteurs sur lesquels la finance s'arrime, mais c'est un secteur assez pratique. Comment expliquer qu'il a autant de succès vis-à-vis de la finance par rapport à d'autres domaines économiques en
particulier ? Si on reprend en tout cas, oui, David Harvey, l'immobilier, donc ce géographe marxiste, l'immobilier c'est une solution spatiale face aux crises de suraccumulation du capital. Donc l'immobilier c'est un outil justement pour éviter que le capital se dévalorise. Et dans les années 1980, justement, on voit se développer à l'échelle internationale aussi tous ces des quartiers de bureaux tertiaires aussi qui se développent. Et dans ces années, on a justement ce qu'on observe, c'est que ces grandes institutions financières, notamment là dans le cas français, donc les compagnies d'assurance ainsi que la Caisse des dépôts qui détenaient déjà cet immobilier, se disent tiens, on va dans cette perspective aussi de privatisation des compagnies d'assurance, on va essayer justement de chercher à se faire de l'argent avec cet immobilier qui est finalement dormant dans nos bilans. Et donc, on observe en fait dans ces années ces compagnies d'assurance en lien notamment avec le ministère de l'économie, promouvoir un ensemble de réformes de ces marchés de l'immobilier, développer des instruments financiers pour justement faire de la place immobilière parisienne finalement une place immobilière de premier plan à l'échelle internationale, à même justement de concurrencer Londres, New York, Tokyo. Et vraiment, dans les entretiens et les archives que j'ai pu mener, on a vraiment cette idée de dire il faut attirer ces capitaux internationaux parce que Paris n'est pas une place finalement suffisamment cher par rapport à Londres, Tokyo. Et c'est vraiment un enjeu à l'époque de place financière. On est dans une période de financiarisation de l'économie où finalement toutes ces places financières sont en concurrence et l'immobilier est ce support justement pour faire affluer, pour faire gonfler finalement la taille de la place financière parisienne. Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces processus se passent hors du giron du ministère de l'Aménagement et que finalement, l'immobilier est juste un pur finalement placement financier avec ces réformes, au-delà des questions, bien sûr, d'aménagement du territoire.
Ça se passe hors du ministère de l'Aménagement, mais ça se passe en revanche en étroite collaboration, ou en tous les cas, discussion avec le ministère de l'économie, vous le disiez, le ministère des finances, parce que il y a des dispositifs fiscaux qui sont inventés. Au fond, on a là encore un exemple de ce que l'économiste Katharina Pistor appelle coder le capital. C'est-à-dire que le travail des juristes, des financiers est d'abord un travail d'imagination pour inventer des mécanismes, véritablement faire naître ce marché de l'immobilier financier, qui est un marché différent de celui de l'immobilier classique.
Totalement. En fait, ces acteurs mettent en place vraiment une véritable architecture institutionnelle dans ces années, un ensemble de réglementations, alors, qui vont surtout se développer ensuite dans les années 2000, mais déjà dans les années 90, on va avoir une baisse des droits de mutation immobiliers pour les bureaux, donc c'est-à-dire on baisse à 5% en fait les coûts de transaction pour justement stimuler les ventes sur le marché de l'immobilier de bureau, avec un fort lobbying des investisseurs nationaux mais internationaux aussi. Les fonds anglo-américains qui arrivent aussi sur ce marché ont intérêt justement à tirer, enfin voilà, à faire des plus-values sur ce marché. On a ensuite aussi un appareillage théorique qui se met en place avec des consultants notamment qui sont passés par la Caisse des dépôts ou par les États-Unis qui ont développé justement toute cette théorisation de l'économie financière avec des modèles de théorie financière appliquée à l'immobilier.
Vous parlez de façonner et raconter le marché.
Bien sûr.
C'est le titre d'un de vos chapitres.
Oui, alors en effet là je suis plutôt sur cette partie en effet, historique. Si on en revient là... Oui.
Non, mais je vous en prie. Il y a effectivement dans le travail une dimension historique. Vous avez pu la mener grâce à l'accès aux archives.
Oui.
Et puis après, il y a des choses que vous avez observées plus directement en travaillant dans ce secteur, en observant à l'intérieur d'un de ces cabinets de conseil, au fond.
Totalement. En fait, donc ce que j'ai fait, ce livre se compose un peu en deux parties. Donc cette partie, en effet, plus historique, qui montre comment cette architecture institutionnelle a été mise en place. Et ensuite, dans un second temps, je montre en fait les mécanismes de formation des bulles spéculatives sur ce marché. Et donc, pour cela, j'ai pris un terrain d'étude particulier, qui est ce fameux cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, qui est un des grands majors de la place parisienne. Ils sont un oligopole, en gros, de quatre grands cabinets. Donc, j'ai fait mon terrain d'enquête dans un de ces cabinets, en particulier dans le service en charge de produire des études de marché. Donc, en fait, ces cabinets, ce qu'ils font, c'est ils mettent en lien des investisseurs entre eux, ce sont des agents immobiliers, en fait, pour grands investisseurs. Plus il y a de transactions sur le marché, plus le marché est valorisé, plus ils font de profit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de mettre en lien ces investisseurs, ce sont eux aussi qui sont ceux qui produisent la donnée, l'expertise sur ces marchés de l'immobilier, puisqu'ils collectent de nombreuses données. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est ce que disent souvent les acteurs du secteur, c'est comme si finalement la météo était faite par une agence de voyage, ils ne vous diront jamais qu'il va pleuvoir.
Et non seulement la météo, mais aussi la formation des météorologues.
Exactement.
Il y a aussi des diplômes,
c'est ça,
etc.
C'est ça. Et en effet, et donc ces professionnels, dans ces cabinets, participent justement, produisent tout un tas d'indicateurs qui sont ensuite relayés dans les principaux médias économiques pour parler de l'état des marchés. Sauf que derrière la transparence affichée sur ces marchés, en réalité, en revers, on a tout un tas de production de l'ignorance aussi sur ces marchés, des pans, on va dire, moins reluisants de ce marché qui ne sont pas mis en avant et qui donnent l'image finalement de marché de bureau toujours attractif, d'une demande, je peux donner des exemples si vous voulez. Un exemple concret, c'est par exemple le loyer facial, c'est un indicateur qu'utilisent ces cabinets, donc le loyer qui est
celui qu'on affiche
théoriquement sur le marché du bureau. On voit qu'il est en constante augmentation toutes ces dernières années, et en fait, en pratique, les fonds qui sont propriétaires de ces bureaux octroient tout un tas d'avantages en fait aux entreprises qui viendraient s'installer dans ces bureaux, 1 an ou 2 ans de cadeaux de loyer. Et ça, en fait, ça participe finalement à valoriser fictivement, artificiellement le prix des bureaux à un niveau, faut être théorique, beaucoup plus important. Et ça, bon, c'est une pratique très connue du milieu, mais qui tend justement à être un peu laissée en sourdine. Et ça renvoie à ce que vous disiez justement sur la culture professionnelle de ce milieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est dans un champ finalement d'acteurs assez restreint, tout un tas d'intermédiaires, de consultants, de fonds, de journalistes économiques qui finalement partagent tout un tas de savoir coupable, si on reprend l'expression de Herbert Hughes, le sociologue des professions, qui justement n'ont pas intérêt, enfin voilà, auprès du grand public, de dévoiler ces secrets de fabrication de la valeur, en fait.
Alors, il y a ce côté savoir coupable de Herbert Hughes dont vous parlez, mais il y a aussi, de façon plus générale, et ça facilite les choses pour tous ces acteurs, le fait que ce secteur n'est pas très scruté, à la différence du secteur du logement. Alors, comme je le disais, on peut remarquer, et c'est pas très compliqué, qu'il y a beaucoup de bureaux vides. Il suffit de lever les yeux dans la rue à Paris pour s'en rendre compte. Mais malgré tout, on peut pas dire que ce soit une thématique très médiatisée, pas tant que ça, en tous les cas moins que le logement, la crise du logement, le problème de l'accès au logement, le logement social notamment, l'éviction, l'expulsion des logements qui devient un véritable problème. Il faudra qu'on mette en rapport un peu plus tard peut-être ces deux questions.
Oui, tout à fait. En effet, c'est assez intéressant. C'est un secteur, comme vous le dites justement, à faible science politique, si on reprend les termes du politiste Pepper Culpepper. En fait, c'est un secteur qui donc jouit d'une faible visibilité médiatique, qui donne finalement davantage de pouvoir aux acteurs du secteur,
aux lobbyistes,
aux élites économiques, parce qu'il n'y a pas que des lobbyistes concrets. Hein, c'est aussi juste des directeurs de fonds qui ont un pouvoir aussi au quotidien d'influence via leurs associations professionnelles qui leur donne un pouvoir dans la manière dont vont finalement être façonnées les réglementations du secteur à l'abri du débat démocratique. Puisqu'en effet, oui, c'est un secteur qui intéresse évidemment peu le grand public, sauf on en reparlera aujourd'hui, c'est davantage publicisé. Donc en effet, ça leur donne un certain pouvoir c'est pour ça aussi justement que ça explique le fait que ces acteurs ont un intérêt plutôt à placer dans l'immobilier billets de bureau par rapport à d'autres produits immobiliers, même si on va voir que peut-être que d'autres produits immobiliers se développent, c'est que il les entretient, le monde bien, dans les années 90 aussi, ce qui a suscité le désengagement aussi de ces acteurs du logement, parce qu'historiquement, les compagnies d'assurance plaçaient principalement dans du logement, c'était au-delà de la rentabilité plus importante des bureaux, c'était aussi justement cet aspect, on va dire, politiquement moins sulfureux du bureau, qui fait qu'en effet, ils pouvaient spéculer, en tout cas, continuer à surproduire sans que ça n'intéresse beaucoup le grand public.
Les compagnies d'assurance, les fameux zinzins, les investisseurs institutionnels, mais notamment au premier chef, la Caisse des dépôts, qui est quand même pas privatisée, à ma connaissance, ça reste un bras armé de la politique financière de l'État, en fait. Malgré tout, cette Caisse des dépôts est allée dans la même direction que ces grands acteurs économiques s'agissant de l'immobilier de bureau.
Oui, en fait, en effet, dans les années 90, ils sont aussi complètement fer de lance de cette politique de financiarisation, notamment en développant dans ces années des indicateurs de performance immobilière, en organisant, par exemple, en 1993, on a des archives à l'hôtel Lutetia dans le 6e arrondissement où la Caisse des dépôts invite un ensemble d'investisseurs internationaux pour montrer la vitrine de la place immobilière française, montrer que le marché immobilier parisien est transparent. Donc toute cette rhétorique attendue par les acteurs financiers, la transparence. On parle aussi du fait qu'on va développer des instruments de titrisation, de titrisation des créances immobilières, qu'on va développer de nouveaux véhicules d'investissement immobilier. Donc en effet, ils ont été très fer de lance, en effet, de ces politiques, et encore aujourd'hui, en développant des fonds d'investissement, des fonds, notamment dans le logement intermédiaire, encore aujourd'hui, oui.
En entendant le mot titrisation, je me rappelle évidemment d'une crise financière majeure, celle de 2008 aux États-Unis, en grande partie une crise du logement personnel, la crise des subprimes. on se dit qu'il y a quand même des risques à faire ce type d'investissement et que ces sociétés prennent des risques considérables. Mais en vous lisant, en fait, on se rend compte que pas du tout. C'est-à-dire que les crises, c'est pas du tout un problème, en fait, pour la stratégie qui est la leur. Ça leur permet de racheter beaucoup moins cher davantage d'immeubles et de continuer parce que eux ont les moyens d'attendre, au fond, ces périodes difficiles. Ils ne sont pas contraints de vendre comme le sont les propriétaires de leur logement individuel. Marine Duros.
En effet, alors il y a différents types de fonds, mais en effet, c'est les fonds dont vous parlez, enfin, notamment de private equity, le fonds Blackstone, qui est un fonds particulièrement puissant, enfin le plus gros fonds immobilier à l'échelle internationale, a fortement en effet bénéficié de la crise de 2008 pour racheter tout des pans de l'immobilier, enfin notamment le logement en Espagne, aux États-Unis. Là, en fait, en effet, ce qu'il y a sur le marché français, on va dire que la structure des investissements est un peu différente. Ils sont présents, évidemment. On a aussi tout un tas de fonds aussi plus, entre guillemets, réglementés, donc ce qu'on appelle les fonds qui gèrent des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, des sociétés foncières qui sont agréées par l'AMF. Donc c'est un autre type de logique d'investissement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France et notamment sur l'immobilier de bureau, dans les années 2008, en effet, on n'a pas vu, contrairement à ce qu'on aurait pu se dire, une sorte de perte. On n'a pas vu, en fait, de baisse des prix drastiques sur l'immobilier de bureau. Et notamment, en fait, c'est notamment lié à ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux loyers faciaux qui fait qu'en fait, dans les bilans comptables, en fait, on maintenait, on va dire artificiellement, des valorisations élevées, mais sans acter, en fait, en pratique les pertes. Alors là, c'est tout le paradoxe justement dans les fameux cabinets de conseil donc, où j'ai fait mon terrain, donc côté production de l'information et aussi côté valorisation, parce qu'il y a des cabinets qui ont pour charge justement de certifier, comme les cabinets, on va dire, un peu d'audit, ou on pourrait dire des sortes d'agences de notation pour fonds. En fait, voilà, ils ont pour objectif de certifier la valorisation à la valeur de marché de ces fonds immobiliers. Et en fait, bon, il y a beaucoup d'arrangements finalement comptables entre ces experts en charge d'évaluer la valorisation de ces immeubles qui vont acter toujours des valorisations à la hausse quand le marché est en leur faveur. Par contre, quand le marché se retourne, là, il y a un rapport de force qui se met en place entre les fonds qui ne veulent pas acter ces pertes et ces experts qui aussi sont pris dans une relation de commerciale, en fait.
C'est assez extraordinaire.
Qui maintiennent, du coup, artificiellement la valorisation de ces immeubles. Oui.
C'est assez extraordinaire d'entendre ça parce qu'au fond, on pourrait se dire, c'est très simple, c'est parmi les produits les plus simples à valoriser, les immeubles. C'est beaucoup plus simple que des choses plus immatérielles. Par exemple, il y a des entreprises pour valoriser des entreprises, c'est pas toujours évident. Là, on pourrait se dire, on joue au Monopoly. Enfin, je veux dire, bon. Et en fait, c'est tout ce travail de fabrication des prix que vous mettez en évidence. C'est-à-dire qu'on est très loin de la théorie économique, de l'équilibre. On est et seul. Une démarche sociologique permet de comprendre véritablement comment les prix sont façonnés.
Tout à fait, oui. En fait, on est évidemment très loin de ça. Enfin, parce qu'on a eu en effet la formation d'une importante bulle spéculative, avec alors même là ces dernières années, donc depuis 2022, les prix ont commencé à chuter avec la hausse des taux de 40%, donc c'est quand même énorme. Mais en effet, l'enquête sociologique, en effet, elle permet justement de montrer ces mécanismes des bulles spéculatives. Non pas comme si c'était finalement, alors comme le dit parfois la théorie, par exemple, Keynes, quand il parle justement de la formation des bulles spéculatives, il va parler de ces esprits animaux, de cette irrationalité qui pousserait finalement les investisseurs à être aveuglés et à faire des investissements complètement irrationnels. En fait, ce que je montre dans l'enquête, à travers l'analyse finalement des structures matérielles, le fonctionnement de ce marché, de ce champ en fait d'acteurs, leur système de rémunération, l'organisation du travail, tout ça, en fait, tout cet ensemble participe en fait, font qu'il y a un intérêt collectif. Il y a une rationalité, finalement, pour ces acteurs d'alimenter la bulle financière, en fait. Donc, évidemment, on est complètement à l'antagonisme du marché néoclassique qui, pourtant, qu'ils utilisent, évidemment, pour légitimer, évidemment, leur activité d'enrichissement.
Ça, c'est les discours.
Voilà.
Mais, du coup, l'enseignement de ce type de théorie participe aussi de l'entretien des croyances et de la capacité qu'il y a à faire des tours de magie avec tout ça. Mais, en fait, je voudrais qu'on revienne sur... Tout à l'heure, vous disiez le mystère de l'aménagement est complètement écarté de tout ça pendant tout ce moment. En fait, C'est pas comme si ce jeu largement virtuel n'avait pas des effets très concrets sur le paysage. Et sur le paysage, par exemple, prenons-le, du Grand Paris. Tout ce qui se passe autour du Grand Paris Express, autour des gares du Grand Paris Express, qui a été documenté par d'autres travaux que vous citez, montre, au fond, les ravages en termes d'absence de réflexion en matière de planification urbaine, parce que ce qui a primé, ce sont ces logiques d'investissement financier.
Oui, c'est complètement dans les ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, je vous ai évoqué ces 6 millions de mètres carrés de bureaux vides aujourd'hui. On peut dire en effet des aberrations, en tout cas des paradoxes apparents, hein, avec justement le travail, oui, notamment de Anne-Claire Weil et Laura Vauchik, qui montrent tous ces expulsés aussi du Grand Paris, les expropriations qui ont eu lieu de ménages modestes liés justement en fait à la construction de ces grandes gares du Grand Paris Express. Et de l'autre côté, en fait, on a eu ce Grand Paris Express a été un outil qui a stimulé très fortement la production de bureaux neufs, vides, hein, puisque donc sans entreprise préalablement identifiée. Notamment aussi, parce que voilà, pour revenir sur les questions d'aménagement, c'est que ces bureaux vides aussi, les collectivités, la région aussi, l'État bénéficient aussi de taxes, de taxes via la taxe sur les bureaux qui participent aussi au financement notamment du Grand Paris Express. Donc il y a ces questions fiscales.
Même que les bureaux soient occupés, c'est autre chose que l'impôt sur les sociétés qui, par ailleurs, ils vont toucher.
Exactement. S'il y a une taxe sur les bureaux en Île-de-France. Et donc, en effet, on se retrouve avec par exemple, à Saint-Denis, on a plus de 30% de bureaux vides dans une des communes parmi les plus pauvres de France, avec l'hôtel Pleyel 4 étoiles qui a été rénové, à côté la tour Maestro, 25 étages, 20 000 mètres carrés de bureaux qui sont vides, ou encore à Nanterre, comme je vous l'ai évoqué.
Donc, ça c'est important de faire le lien, et peut-être que ce lien commence à se faire dans l'espace public entre cette question jusque-là très invisibilisée de l'immobilier de bureau, financiarisé, et puis le problème du logement. Parce que ce problème du logement, lui, il est de plus en plus aigu, il a été davantage médiatisé, mais de manière non pas nécessairement liée au bureau. Là, maintenant, du fait qu'on peut imaginer transformer des immeubles de bureaux, alors ça aussi, ça peut devenir un business.
Oui.
Faut s'en méfier.
Ouais.
Mais en tous les cas, les deux problèmes commencent à s'articuler.
Oui, une publicisation, en effet, de cette surproduction de bureaux. Début 2024, Les Échos titraient la surproduction de bureaux apparaît au grand jour. Une sorte de consensus qui se met en place entre acteurs publics, privés, sur l'idée que il faudrait transformer ces bureaux vides en logements. Je reprends le terme d'un fonds qui parlait d'alignement des planètes, hein, entre ces fonds qui auraient des bureaux vides et la crise du logement qui d'un coup devient presque publicisée, dramatisée, notamment par les professionnels de l'immobilier. Cette publicisation très récente peut faire un peu sourire quand on voit comment, pendant toutes ces années, elle a été invisibilisée, notamment par les indicateurs dont je vous parlais, qui tendaient à sous-estimer la vacance, à la laisser de côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En tout cas, ce qui est intéressant de voir, cette publicisation, elle est concomitante avec une période où, en fait, les taux d'intérêt donc des banques centrales ont remonté en 2022 et donc qui a mécaniquement baissé la valorisation de ces immeubles et le coût aussi des crédits qui s'accroît, et donc finalement on a un prix des bureaux qui se rapproche d'un coup de celui du logement, et donc finalement on a l'impression que ce cadrage de la crise des bureaux, de la surproduction, elle a un peu indexé aux intérêts, on va dire, de rentabilité de ces acteurs financiers. Le problème, c'est que ce cadrage, il tend à invisibiliser aujourd'hui les causes structurelles de cette surproduction. Et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que finalement, on a tendance à relier cette surproduction au problème du télétravail, mais on nous laisse de côté le fait qu'il y a encore des bureaux neufs qui sortent de terre, qui sont vides. Face à ça, en fait, on a des acteurs financiers qui s'organisent déjà depuis quelques années pour justement demander des aides de l'État pour faciliter la reconversion de ces bureaux locaux vides en logement. Donc voilà, notamment déjà la loi Elan hein, l'avait permis en partie avec en permettant un bonus de constructibilité pour la transformation de bureaux en logement, des dérogations de l'obligation de produire des logements sociaux dans les quartiers non carencés, voilà, parmi d'autres des incitations fiscales. Donc finalement, on voit qu'on a des politiques publiques qui sont un peu façonnées justement selon ces critères de rentabilité, alors qu'on pourrait justement questionner, justement, se dire, mais repenser aussi le fait que certes, peut-être que certains fonds ont perdu à un moment, mais ils ont aussi beaucoup gagné dans les années 2010, avec beaucoup de politiques qui leur ont été favorables. Et on a eu aussi une régulation, finalement, de la production de bureaux qui est très faible. Donc, on pourrait imaginer peut-être des politiques plus contraignantes, justement, pour justement obliger, en fait, à ces transformations. Voilà.
Mais vous citiez l'exemple de Saint-Denis, du coup ça me fait penser au fait que probablement si l'invisibilisation a été aussi grande aussi, c'est que la critique politique de ces politiques publiques n'a pas été menée par les partis de gauche en particulier, puisqu'ils sont à la manœuvre, à la tête des municipalités directement concernées. Donc au fond, qui allait mettre sur l'agenda cette question?
Oui, c'est une bonne question.
Peut-être qu'on va trouver des éléments de réponse avec Françoise Fonneau, architecte, enseignante en architecture, qui nous rejoint après un extrait du nouvel album de MS Paint, Drift.
La suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Comment la finance s'empare de nos villes? C'est le sous-titre du livre de Marine Durose dont on parle aujourd'hui à la suite dans les idées. Un livre titré Immobilier hors sol. Et on en parle maintenant aussi avec Françoise Fromoneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous êtes enseignante, professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Et vous aviez fondé cette revue de critique d'architecture très importante, Critica, qui a existé pendant assez longtemps, une dizaine, vingtaine d'années?
Dix ans,
20 numéros, c'est ça, c'était deux fois par an. Et vous avez publié plus récemment, il y a quelques années, aux éditions La Fabrique, La Comédie des Halles, à propos du Forum des Halles à Paris. Alors là, on n'est pas dans l'immobilier de bureaux, on est dans un centre commercial, une opération des années 1970, repensée, refourbie, comme pour faire un anglicisme, il y a quelques années. Et vous vous êtes intéressé à la manière dont ça s'est opéré.
Oui, je me suis intéressée à cette affaire des Halles entre 2004 et 2019, vous voyez, donc pendant 15 ans. Et j'ai été amenée, dans ce cadre-là, à rencontrer un des acteurs que cite Marine Duros dans son livre, à savoir Unibail, qui est cette considérable multinationale de gestion immobilière, dont le fondateur, enfin le refondateur dans les années 90, a été un des importateurs de la titrisation de l'immobilier en France, et qui se trouvait être, depuis les années 70, depuis la construction du Forum, le propriétaire d'un bail emphytéotique pour l'exploitation commerciale du site. Et en regardant un petit peu, en re-regardant comment on en était arrivé là, puisque c'est un petit peu ça mon travail de critique d'architecture, je prends un peu les choses par l'autre extrémité que celle, par la, enfin l'autre bout de la lorgnette que celui par lequel regarde Marine Duros, c'est-à-dire que je m'intéresse aux opérations construites, aux choses concrètes de la ville, de la forme urbaine, de l'architecture, de l'espace public, et j'essaie de les décrypter dans leur état en utilisant des travaux comme le sien, qui sont évidemment très précieux pour en comprendre les rouages, les bifurcations, les raisons profondes et invisibles. C'était d'ailleurs aussi sur cette idée qu'était fondée cette revue Criticat, essayer de dénaturaliser comme ça les phénomènes qui conduisent à construire voilà une réalité perçue qui peut paraître immanente. Enfin voilà, essayer de comprendre comment tout ça s'est fabriqué. Et donc pour en revenir aux Halles, j'avais pu voir combien Unibail avait une double puissance de feu, d'abord par sa puissance financière. C'était une société qui avait à l'époque, je sais plus, 25 milliards d'actifs dans le monde, spécialisée dans les centres commerciaux. Elle en a aujourd'hui le double. Et puis une puissance de feu également de par sa position spatiale dans le dispositif des Halles, puisque le Forum est pris, comme tout le monde le sait, enfin bon, c'est un bâtiment, c'est un endroit très parisien, j'en suis désolée, mais en même temps, tout le monde le connaît, les gens qui viennent visiter Paris, les touristes, etc., on passe toujours par là, parce que ce centre commercial est assis sur une gare d'interconnexion de RER, donc un gigantesque espace public souterrain, très fréquenté, qui lui apporte une partie de sa clientèle.
Une des plus grandes gares d'Europe.
Des plus grandes gares d'Europe, 800 000 personnes par jour, dont la plupart ne font que changer de train ou passer, mais certains aussi ressortent à la surface. Donc pris comme ça, ce Forum, entre deux espaces publics. Et à l'occasion de cette grande rénovation, pilotée par la ville, je me suis intéressée à la manière dont Unibail avait si bien manœuvré qu'ils avaient réussi à se faire vendre la nue propriété pour très peu cher par une ville qui était pourtant la maître d'ouvrage, maîtresse d'ouvrage de l'ensemble de l'opération, mais qui finalement s'était soldée derrière le très spectaculaire chapeau, la canopée qui couvre maintenant le Forum et que la ville a payé avec de l'argent public, eh bien, en dessous, maintenant, toute cette réalité est privatisée. Voilà. Donc, cette privatisation de l'espace public par l'intermédiaire de sociétés de gestion immobilière qui participent complètement des phénomènes que décrit et qu'explique brillamment Marine Duros. J'ai pu en prendre connaissance et essayer de faire un pas vers des explications que la critique d'architecture en général ne fait pas.
Des souvenirs de lecture anciens remontent et je crois donc me souvenir que au départ, ceux qui ont imaginé ce Forum des Halles avaient pensé y placer des commerces de luxe en fait, et très vite ils ont déchanté. Ils n'avaient pas compris au fond que ça deviendrait une des plus grandes gares d'Europe et que ce serait comme une île de France au sens propre du terme, au fond un morceau de banlieue en plein cœur de Paris, Françoise
Fromenot. Oui, exactement. Et au départ, il était prévu de faire une sorte d'équivalent du Faubourg Saint-Honoré en moderne, en sous-sol, en copiant au fond cette innovation typologique qu'avaient été les shopping malls américains et qui revenaient comme ça en Europe dans les centres-villes dont ils remplaçaient le commerce traditionnel. Et puis ça n'a pas marché. Et en effet, cette interconnexion souterraine, donc la gare de Châtelet-Léal, elle connecte ce qui à l'époque étaient les nouvelles lignes de RER B et A, donc nord-sud-est-ouest, ce qui est d'ailleurs assez savoureux de penser que voilà tout ce travail d'infrastructure réplique en sous-sol le Cardo et le Decumanus romain finalement. Et qui allait apporter, au fond, une clientèle devenue de toute l'Île-de-France et de tout le Grand Paris, qui a évidemment poussé le Forum à modifier son offre commerciale.
Alors ça, c'était en revanche parfaitement connu et intégré, j'imagine, quand il s'est agi de penser la reconfiguration de ce Forum. Et de ce point de vue-là, les choses ont moins changé depuis qu'il a été refait.
Il faut dire que l'opération en général a beaucoup profité à Unibail. Le centre, le Forum s'est beaucoup amélioré sur le plan de son ambiance. Hein. La foncière était désireuse de toute façon de le transformer. Il n'était pas très flambard, si je puis me permettre, avant cette grande opération. Mais elle lui a surtout donc permis de prendre la main sur une quantité assez colossale de mètres carrés qu'elle possède maintenant en nue propriété. Donc le Forum lui-même, le rez-de-chaussée des commerces, enfin de commerciales de la canopée, des éléments en sous-sol et dans la gare. Je disais tout à l'heure que moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de questions assez simples, au fond, de cette réalité perçue et vécue et cette expérience des lieux. Quand vous sortez de la gare de RER, qui elle aussi a été transformée, ben vous verrez que sur 8 sorties, aujourd'hui, il y en a 7 qui font passer par le Forum pour pouvoir accéder au jardin et à la ville de surface. Donc une des grandes victoires aussi d'Unibail, ça a été de reconfigurer toutes ces sorties au profit d'une extension des achats d'impulsion que permet le fait d'ajouter des paliers entre des escalators. Enfin, voyez, baliser un peu la sortie de la gare d'occasion pour pouvoir aller faire une emplette dans le centre commercial.
Ce qui est complètement raccord avec la dimension de centre commercial que d'autres gares classiques, je pense à la gare du Nord en particulier, ont pu acquérir dans la même époque, en fait.
Ah oui, tout à fait. Donc on voit bien que les gares sont devenues, maintenant, ce sont des gares centres commerciaux, Saint-Lazare. Là, aujourd'hui, on est en train de construire un énorme complexe commercial en parallèle de la gare d'Austerlitz. Enfin, voilà, il y a un effet d'entraînement et un effet de captation des flux. Et c'est assez intéressant de mettre en parallèle ce que raconte Marine sur les flux financiers. Cette espèce d'alchimie, au fond, qui fait que des bâtiments, donc des choses lourdes, immobilières, deviennent en fait principalement pensées en termes de flux, c'est-à-dire l'inverse, et que les flux réels, les flux de population, sont là pour abonder encore cette manne et ces dispositifs qui sont conçus pour le commerce.
Alors, vous avez glané, vous disiez, des choses très intéressantes et complémentaires de votre approche, Françoise Fromoneau, dans l'enquête de Marine Duros, sur ces dimensions de financiarisation. Vous n'avez pas directement travaillé sur les immeubles de bureaux, mais j'imagine que ce qu'elle décrit vous permet de mieux comprendre les opérations architecturales sur lesquelles vous avez travaillé.
Ah oui, tout à fait, oui, on découvre beaucoup de choses. Alors en général, je disais, la critique d'architecture recourt rarement à des explications un peu, à des incursions comme ça dans l'économie politique, parce que c'est très chronophage, c'est très complexe. Et réciproquement, l'économie politique et la sociologie hésite à s'aventurer sur le terrain des formes architecturales que tout ça produit. Et Marine a habilement réintroduit cette dimension avec une série de photographies comme ça qui sont dans son livre, des petites photographies en noir et blanc qui sont prises dans la banlieue nord-est de Paris et qui montrent, voilà, c'est l'architecture de ces bureaux qui sont toutes au fond, et chacun peut le constater très facilement, qui sont des bâtiments très génériques, c'est-à-dire c'est-à-dire qui sont tramés très, très simplement en façade et qui se ressemblent tous et finalement dont la conversion au logement transfère à l'architecture du logement mécaniquement cette esthétique tout à fait générique. Et ce qu'on découvre, voilà ce que j'ai découvert, c'est que cette question de la transformation des bureaux en logement, c'est une question aujourd'hui qui occupe beaucoup la recherche en architecture, les écoles, les projets qu'on fait dans les écoles d'architecture, les instances de l'urbanisme de certaines grandes villes, le champ professionnel des architectes. Mais en fait, l'immobilier dont Marine parle, il s'en préoccupe depuis très longtemps, comme un moyen, au fond, pour les acteurs de l'immobilier financiarisé, de continuer ces politiques de conversion de toute réalité construite en flux financier, alors que nous, dans les écoles d'architecture et dans la recherche, on parle de la transformation des bureaux en logements comme une pratique vertueuse qui va permettre d'économiser des ressources, de la matière, d'offrir des opportunités peut-être architecturales, ce dont on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, je trouve que toute cette recherche est très éclairante et très déstabilisante au fond.
Merci Françoise Fromeneau. Un mot, Marine Duros.
Oui, enfin sur cette question de la réversibilité, je trouve ça aussi très intéressant. Enfin, merci François Fromeneau pour ces éclairages. C'est la réversibilité en effet. Enfin, c'est finalement qui est aussi en effet très prôné en fait dans les milieux aujourd'hui de l'immobilier. Hein. C'est quand même quelque chose qui émerge aussi parmi les promoteurs immobiliers, Bouygues notamment. En fait, c'est ce qui va permettre finalement de rendre encore plus liquide en fait l'immobilier hein, cette réversibilité, puisque en cas de surproduction on pourra finalement transformer ça selon une autre forme plus rentable si ça permet. Donc évidemment l'idée n'est pas de dire il ne faut pas réfléchir à la réversibilité, puisque à l'heure du zéro artificialisation nette, évidemment, enfin l'idée n'est pas de
ce serait absurde.
Mais par contre il faut être vigilant, du moins hein. Là il y a justement le projet de loi de Romain Daubier qui a été voté à l'Assemblée avant-hier, sur justement qui permet ce permis de construire justement réversible, qui a été expérimenté lors des Jeux Olympiques, qui a vocation à rendre plus souple, fluide en fait ces autorisations, les transformations d'immeubles. Donc évidemment, pourquoi pas, si c'est au service réellement de la soutenabilité, enfin de l'environnement et aussi des besoins réels des habitants. Par contre, si c'est juste une réversibilité pour répondre aux exigences de rentabilité des propriétaires que sont les fonds, c'est plus problématique.
Voilà, on est dans des logiques qui ressemblent.
C'est un paradoxe, c'est-à-dire que ce qui est censé fabriquer de la pérennité fabrique en fait une ultime flexibilité.
Merci à toutes les deux, Françoise Fromeneau, Marine Duros. Je cite le nom de la photographe. Vous avez parlé de ces photos, Maria Nikiforova. Donc ces photos qui ponctuent, qui scandent le livre, qui sont l'occasion d'une exposition en fait qui donne à voir ces formes créée, produite, rendue possible par cette finance dont nous avons parlé aujourd'hui, cet immobilier hors sol. On trouve la référence du livre sur la page de l'émission.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Rubrique actualité aujourd'hui pour parler d'un nouveau média, d'un site qui s'appelle Diagramme au pluriel, qui est à l'initiative de Michel Féer. Bonsoir. Notamment, vous êtes philosophe, vous êtes venu dans cette émission à quelques reprises, la dernière fois pour parler d'un livre, voici quelques mois, mais ça fait longtemps, des mois et peut-être des années que vous aviez en tête ce projet. Quel est finalement l'objectif? On va le décrire après très concrètement, mais d'abord commençons peut-être par l'objectif intellectuel que vous vous êtes fixé.
Merci de m'inviter, de me réinviter. L'objectif premier, c'était de faire un espèce d'observatoire de la droitisation du monde. Manifestement, la droitisation va bon train, elle s'accélère un peu tous les jours, et elle est multidimensionnelle aussi. Donc, il s'agissait, pour essayer d'y résister, de commencer par la comprendre. Et donc, on s'est demandé comment faire. Et la formule qu'on a trouvée, c'est pour ça que ce site a un côté un peu insolite, incongru, singulier, j'espère, c'était de le centrer sur des longs entretiens filmés, avec des chercheurs, avec des activistes, avec des journalistes, mais d'accompagner à chaque fois ces entretiens par des dossiers consistants, en tout cas on espère, c'est-à-dire que quand, puisque ce sont des longs entretiens...
Qui permettent d'articuler les entretiens les uns aux autres, notamment.
En plus, oui. Permettent d'une part d'articuler les entretiens les uns aux autres, ça c'est le but ultime, de montrer qu'il y a une cohérence dans ces différentes dimensions de la droitisation, mais c'est aussi de les étayer, c'est-à-dire que quand nos interviewés parlent de quelqu'un, eh bien on aura un portrait de la personne. Quand ils évoquent un événement, il y aura un encadré sur cet événement. Il y aura aussi des frises importantes pour essayer de comprendre dans la durée ce dont il parle. Donc c'était un espèce de renvoi et de résonance entre la parole filmée et puis les petits textes qui...
L'enjeu est important parce qu'éditorialement, sur le web, c'est pas facile toujours de faire ces choses-là.
C'est ça.
Mais il faut absolument y arriver. Vous avez défini 5 chantiers, au fond, 5 grands domaines. C'est une manière de rubriquer, comme on dit en journalisme, atypique. C'est-à-dire que vous n'avez pas une rubrique politique, une rubrique économie, une rubrique écologie, etc. Vous avez inventé des têtes de chapitre, au fond.
C'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était donc, ça s'appelle diagramme, parce que c'est à l'intersection d'un certain nombre de programmes de recherche. Puisque cette droitisation, me semble-t-il, se déploie dans plusieurs dimensions. Donc la première, qui nous ramènera à ce dont nous venons de parler depuis trois quarts d'heure...
Oui, qui fait vraiment écho à ce dont on a parlé.
Exactement. Ce sont les mutations du capitalisme, et en particulier les mutations du capitalisme depuis 2008, parce que les choses ont bougé très fortement, même s'il y a eu une grande critique de la financiarisation et du néolibéralisme dès les années 90, ben, après 2008, les choses se réorganisent encore totalement. On voit notamment, c'est l'émergence, ou en tout cas l'hégémonie même, de ces espèces de nouveaux monstres que sont les gestionnaires d'actifs, d'une part. Et d'autre part, bien sûr, ça c'est encore plus visible, ces nouveaux barons voleurs que sont les géants de la tech. Et ça, c'est une totale réorganisation du capitalisme, voire même du capitalisme financier, puisque les banques systémiques à la Goldman Sachs, qui étaient les monstres d'avant, sont presque pittoresques à côté de ce qu'on voit du côté de BlackRock, de Blackstone d'un côté, évidemment de Musk et de ses petits camarades de l'autre. Avec en plus le fait que ça s'articule maintenant avec un régime politique dont ils sont la cour. Bien. Donc ça, c'est le premier programme, donc c'est l'imitation du capitalisme.
Alors, par exemple, ce ouais. premier programme, puisque là, vous avez lancé ces jours-ci Diagramme, et pour chacun des programmes, vous avez commencé à alimenter chacun de ces dossiers, en quelque sorte, par un premier entretien.
C'est ça. En plus, chaque entretien est chaque fois à l'intersection de deux programmes. Par exemple, nos trois premiers entretiens, c'est avec Eyal Weitzman. Alors là, ça nous mène déjà vers le deuxième programme, donc je le suspends pour le moment. Mais sur le premier programme, on a d'une part Quinn Slobodian, qui est un historien qui est venu en France récemment présenter son avant-dernier livre qui s'appelle en français Le capitalisme de l'apocalypse, Crack Up Capitalism, et qui est un historien du néolibéralisme mutant. C'est-à-dire que sa thèse, qui me semble extrêmement intéressante, c'est que l'extrême droitisation que l'on voit se développer dans le monde n'est pas, comme on l'a dit, une réaction des perdants de la mondialisation contre le néolibéralisme, mais bien plus une mutation interne au néolibéralisme qui, graduellement, est venue... Sur des terrains où on n'attendait pas des libéraux propres sur eux, comme Hayek par exemple, c'est-à-dire le terrain d'un retour à un racisme, une racialisation virulente, une réhabilitation de choses comme le quotient intellectuel et donc une espèce de hiérarchie des intelligences, mais aussi une passion étonnante sur le retour de l'étalon or, éventuellement articulé à des crypto-monnaies. Bref, Slobodian documente de façon, je crois, brillante, cette espèce de mutation du néolibéralisme.
Alors ça, cet entretien fait partie du premier dossier, mais il fait aussi partie d'un autre dossier, comme ça on peut venir à l'autre dossier.
Il fait aussi partie d'un autre dossier, donc ça nous mène sur un autre programme, qui est le dossier de la variété des extrêmes droites. Parce qu'en effet, s'il y a une extrême droitisation généralisée, néanmoins, pas toutes les familles d'extrême droite sont les mêmes, même si elles s'entendent relativement bien, alors même qu'elles ont des divergences profondes. Par exemple, les défenseurs d'un état social ethno-nationaliste ou nativiste ne sont pas de la même famille que les libertariens à tronçonneuse qui veulent détruire tous les services de l'État. Et pourtant, des résonances se font, des alliances se font. La gauche, d'ailleurs, ferait bien d'en prendre un peu de la graine, si je puis dire. Et ça donne des mélanges particulièrement détonnants. Et donc, en effet, Slobodian est à la fois sur la mutation du capitalisme et sur cette espèce d'émergence ou de réémergence assez extraordinaire de ce qu'il appelle de ce que ces gens eux-mêmes appellent le paléolibertarianisme, c'est-à-dire un espèce de croisement de nativisme et de racialisme et de folie du marché en même temps. Donc ça, c'est deux programmes déjà, mais ensuite, il y a un autre programme qui est sur les réalignements géopolitiques, parce que quand même, là aussi, le monde change vite et de manière radicale. Quand on est dans un monde où on voit les États-Unis voter au Conseil de sécurité avec la Chine, la Russie, le Nicaragua, l'Iran et la Corée du Nord, on n'est pas dans un monde qui peut être aisément saisi ni par une critique anti-impérialiste à l'ancienne, ni par une critique anti-totalitaire à l'ancienne. On est dans un nouveau monde et il s'agit de cartographier ce monde. Et de ce côté-là, ça c'est un deuxième entretien que l'on a là, qui me semble très important, qui est celui d'Eyal Weizmann, qui est donc le fondateur de Forensic Architecture, qui a renouvelé, je crois, l'activisme des droits de l'homme et la critique des crimes d'État, et qui très récemment, c'est leur dernière œuvre à Forensic Architecture, ils ont produit cette extraordinaire et terrifiante cartographie du génocide en cours à Gaza, où il s'agissait de montrer qu'il s'agissait bien d'un génocide, qu'il y avait bien une intention génocidaire, et pour cela, il fallait non pas simplement montrer que des crimes étaient commis, mais qu'il y avait intentionnalité, c'est-à-dire une articulation et une résonance entre ces crimes. Donc ça, c'est lui, mais en même temps, il est aussi sur le cinquième programme, qui est le programme précisément des résistances. C'est-à-dire, si effectivement on a cette extrême droitisation du monde, et qu'elle est elle-même profuse et multiple, comment il faut y résister? Parce que la gauche ne peut pas rester, ou les gauches ne peuvent pas rester dans leur vieux cadre dès lors que l'ennemi a changé. Donc là aussi, il donne un exemple de ce genre. Je continue dans mes programmes. Le suivant, c'est sur l'évolution et les transformations du déni climatique. Parce que certes, le déni climatique, il existe depuis longtemps, mais il mute lui aussi. C'est-à-dire que le climato-scepticisme à l'ancienne, certes, il existe encore, il y a des gens qui continuent à nier les choses, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus frappant. Il y a eu trois autres tendances. La première, qui est celle du greenwashing, c'est-à-dire d'une vraie fausse mitigation du changement climatique, qui consiste à dire, et ça c'était, on parlait des gestionnaires d'actifs, c'était la thèse de BlackRock, qui était, on peut à la fois maximiser les profits et faire la transition énergétique. Mais là, on est dans un autre monde qui est un monde plutôt de carbocynisme. C'est-à-dire de gens qui disent, en gros, on n'en a rien à faire. L'idée, c'est de forer, baby, forer. Ceci dit, on va quand même essayer de s'emparer des sources d'énergie renouvelables pour faire en sorte que les Chinois ne l'aient pas. Mais néanmoins, on continue du côté des énergies fossiles.
Donc voilà. Là, il y a dans ce chapitre-là un entretien avec Théa Riofranco sur la question de l'extractivisme vert et brun.
Exactement.
C'est des longs entretiens, on l'a peut-être pas assez précisé, tournés en vidéo, qui sont en langue originale, sous-titrés si on veut en français, mais l'idée c'est qu'aussi ce programme soit accessible de manière multilingue, Michel Fer. On le trouve en ligne à l'adresse
diagramme au pluriel.fr.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, la technique ce soir Olivier Arnay, à la réalisation Jean-Christophe Francis.